lematin.ch pour un nouvel épisode des 3 quarts d'heure de Steaky. Aujourd'hui, avec l'intervenant de Blue Sport, Nicolas Emeneger, et les journalistes du Sport Center, Valentin Schnork et Florian Vanet, on va parler du Servette FC qui a peut-être enfin lancé vraiment sa saison 23-24 après cette courte d'école italo-tessinoise. On va aussi parler du canton de Vaud qui est un peu à l'envers ce week-end avec le LS qui a fini par gagner et les deux néo-promus aussi Slow et Yverdon qui eux sont un peu retournés sur terre. On finira par parler de l'équipe de Suisse qui s'est offert 2 jours de vacances après ce qui s'est passé en Israël. Et on va aussi parler de nos mercenaires suisses à l'étranger préférés en ce début de saison. C'est parti, bonne écoute des 3 quarts d'heure de cette équipe. Messieurs, bonjour. On part directement sur le Servette FC qui semble s'être trouvé un peu, qui a un peu évolué. Je ne sais pas ce que tu en penses, Valentin. Cette course d'école italo-tessinoise a fait du bien.
Elle a fait du bien, surtout la fin a fait du bien. C'est la victoire à Lugano qui conforte un petit peu tout le monde et surtout René Weiler qui permet d'avoir un peu plus de latitude peut-être pour travailler pendant la trêve internationale qui arrive, un peu moins de pression aussi, parce que de la pression, mine de rien, il en avait sur son poste avant la double confrontation Winterthur-Lausanne et notamment après le match contre Winterthur il y a ça 10 jours. Là, ces deux victoires de suite contre Lausanne et Lugano, elles font en effet beaucoup de bien. La défaite à la Rome, elle s'accepte dans le sens où c'est la Rome en face, même si ça ne s'enlève pas non plus tous les... Enfin, c'est disons qu'il faut pas, il n'y a rien à négliger non plus par rapport à ça. Au-delà de ça, dans le jeu, dans ce qu'on a vu contre Lugano, je pense qu'il y a eu des adaptations qui sont surtout dues au fait que c'était une semaine assez chargée, la semaine européenne, qu'il fallait faire tourner un petit peu, trouver peut-être d'autres alternatives. Et le fait d'avoir une approche un petit peu plus attentiste, ça a permis sans doute à Servette de gérer un petit peu mieux les temps de match. De là à dire, est-ce que c'est la nouvelle façon de jouer de Servette, ça, j'en suis pas persuadé. Je pense que c'était surtout une question d'adaptation au contexte et à l'adversaire également. Et ça demande d'être revu ensuite. Mais je pense que c'était la bonne formule, en tout cas dimanche à Lugano. Et on est quand même assez curieux de voir ce qui arrivera ensuite, parce que là, Weiler peut quand même travailler de manière un petit peu plus sereine.
Nicolas, René Weiler s'est acheté un peu de temps.
Oui, et moi j'ai trouvé la manière dont il a évolué hier avec son équipe à Lugano très pragmatique. C'était une semaine compliquée à gérer en termes de répartition des efforts. C'était une xème semaine anglaise, la troisième de suite depuis la première journée de Coupe d'Europe. Et il a fait le match qu'il fallait dans de telles circonstances. Et les 3 points sont plus que bienvenus, viennent confirmer quand même les 3 points déjà obtenus contre Lausanne. Comme a dit Valentin, Rome, ben, il s'est passé ce qui s'est passé, mais ce n'était pas là que René Weiler était attendu en termes de résultats. C'était contre Lausanne et contre Lugano. Et il y a 2 matchs et 6 points. Et ça fait beaucoup de bien à cette équipe qui se cherche encore, qui ne s'est pas encore définitivement trouvée, à mon sens, mais qui a fait un pas vers l'avant avec les 2 derniers matchs de championnat.
Florian, il y a quand même cette question entre Lugano qui rentrait de Turquie et Servette qui était sur place, hein, finalement presque au Tessin. Est-ce que, à ton avis, c'est une évolution volontaire ou est-ce que c'est forcé par les événements que Servette a joué peut-être un peu plus bas et qui a maîtrisé assez bien, je trouve, un adversaire pourtant en grande forme?
J'ai pas mal de peine à le dire, j'écoute volontiers Valentin là-dessus, mais je pense quand même que René Weiler, s'il peut s'entêter sur certains principes, on le voit quand même essayer de chercher des solutions, j'ai l'impression, chaque semaine. Alors, j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois qu'on entend « oui, mais est-ce qu'il a joué comme ça parce que l'adversaire, machin, ou est-ce qu'il a joué comme ça parce que son équipe l'y obligeait ?» Et j'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs fois qu'on est confronté à cette situation. Ce qui peut tendre à vouloir dire que, quand même, René Weiler, un peu de remise en question, qui cherche des solutions, et ça, quelque chose d'assez rassurant, je pense.
Nicolas.
Ah ben, est-ce qu'on voit sur le match notamment à Lugano, c'est qu'il n'y a rien de très figé en fait. Hein. Servette s'adapte beaucoup, s'adapte beaucoup en fonction du match. On voit que devant, ça bouge beaucoup. Entre Andrés, hier, ça commençait avec Stevanovic et Crivelli, plus ou moins devant, même si Stevanovic était un peu plus bas, notamment sans ballon. Antunes Crivelli, il y avait Bola aussi qui jouait hier. Ils ont tous un petit peu joué à des postes différents sur les quatre postes de devant. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de rigidité dans l'approche de Weiler? Est-ce que ça veut dire qu'il se cherche aussi un petit peu? Est-ce qu'il essaie de nouvelles choses? Est-ce que parce qu'il sait qu'il joue contre Lugano, il sait que son Lugano est une des meilleures équipes avec le ballon de Super League, il les laisse relancer de manière un petit peu plus, en mettant en place un bloc un peu plus bas, un bloc médian qui avait pour ambition de densifier l'axe, d'être agressif dans l'axe. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui rentrent dans la balance et qui font que Servette a joué comme ça hier. Mais moi, je vois pas une ligne que Weiler suit précisément sur les disons deux dernières semaines.
Nicolas, il y avait un turnover hein, que l'effectif permet enfin. Mais il y a aussi quelque chose qui m'interroge au niveau des gardiens. Le coach dit qu'il a deux bons gardiens, deux numéro un. Quoi. Moi, je n'ai pas l'impression, dans tous les clubs qui tournent bien, que c'est une bonne solution. En général, un gardien, tu l'installes, tu lui donnes la confiance. Et là, c'est ouais, on sent qu'il y a un petit problème à ce niveau-là, à mon avis.
Bon, Joël Mal, il a eu sa chance parce que Frick a été blessé et il l'a saisi. C'était pas prévu, certainement même par René Weiler que ça se passe ainsi. Il a mérité sa chance. Hier, le changement, c'est que pour la première fois, Mal joue et Frick prend place sur le banc. Parce que les autres fois où Mal a joué, c'est que Frick était blessé. René Weiler nous disait que Frick n'a aussi pas joué parce qu'à Rome, il a joué, mais sous piqûre et qu'il fallait aussi peut-être le préserver. Moi, j'ai quand même le sentiment que Frick reste le numéro 1, même si Weiler dit qu'il a deux gardiens, qu'il a deux numéros 1. C'est un peu de la communication. Et selon moi, Frick garde encore une longueur d'avance et même plus qu'une longueur d'avance sur Joël Mal.
Ouais, je répondais là-dessus, mais je parlais la semaine dernière avec Thierry Barnera, qui est expert de la question, qui travaille notamment avec certains des meilleurs gardiens d'Europe. Et bon, pour lui, où je rejoins Nicolas, c'est que pour lui, aucun bon club ne fonctionne avec une concurrence entre ses gardiens. Ça n'existe pas, et si tu fais ça, tu insécurises tes gardiens, en fait. Tu les pousses à le jour où le numéro 2 a sa chance, à faire le pas de trop sur un corner, à vouloir se montrer, à vouloir prouver sa valeur, etc. Et ça n'a jamais rien de bon. Donc, ça pourrait tendre à nous amener à penser qu'effectivement, Frick est toujours le numéro un si Servette est un club, réfléchi.
Ben moi, l'exemple que j'ai en tête d'un club qui a voulu jouer avec deux numéros un et qui s'est planté, c'est Paris il y a deux saisons en arrière. Ça n'a jamais fonctionné et au final, ils se sont retrouvés les deux en manque de confiance et en arrivée, sauf erreur, c'était le huitième de finale de Ligue des Champions où on se posait encore la question qui allait jouer et Paris s'était fait éliminer.
Et on pourrait
t'as le bon exemple de l'Inter l'année passée où c'est Andonavit qui commence la saison, Onana qui joue en Ligue des Champions et puis au fil de la saison, Onana qui prend sa place et qui permet à l'Inter d'arriver en finale avec les champions. Il y a des bons exemples et des contre-exemples, à mon avis.
Oui, et on pourrait, à la limite, se poser la question si tu possèdes deux gardiens au profil radicalement différent, éventuellement, j'en suis même pas sûr, mais est-ce que c'est vraiment le cas entre Frick et Mal? Je sais pas.
Bah ouais, Valentin, au niveau tactique, au niveau physique, au niveau qualité intrinsèque, c'est deux gardiens qui se ressemblent beaucoup quand même.
Oui, enfin, disons que c'est un morphotype qui est assez similaire. C'est pas deux joueurs au pied extraordinaires. En tout cas, pour jouer court, pour jouer long, c'est quand même pas si mal. Après, on peut juger l'impact de l'un et de l'autre sur la ligne, etc. Moi, je vois pas de très grande différence entre les deux actuellement. Maintenant, oui, je pense que Jérémy Frick est encore devant. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il est devant. Et je pense qu'il est devant surtout parce que Jérémy Frick est une personnalité qui pèse Servette, qui est très important. C'est le capitaine, mais c'est aussi ils ont des interlocuteurs privilégiés des dirigeants. C'est quelqu'un à qui on demande son avis. C'est quelqu'un qui prend de la place à Servette. Donc, c'est pas, je ne sais pas quelle est l'idée profonde de René Weiler. Peut-être qu'il a, il préférait faire jouer Mal, c'est plus ou moins lui qui l'a fait venir, c'est lui qui l'avait lancé à Arrow. Est-ce qu'il a ramené Mal avec l'ambition de lui faire passer devant Frick? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la liberté de Weiler de pouvoir mettre Joël Mal, faire passer Joël Mal devant Jérémy Frick, elle n'est pas très grande. Il n'a pas cette, forcément cette possibilité-là. Il n'a pas un soutien totalement, un soutien complet, je pense, de sa hiérarchie, que ce soit formulé de manière directe ou que ce soit de manière peut-être un petit peu inconsciente. Donc voilà, c'est pas évident de passer devant Jérémy Frick à Servette. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison qui surpasse toutes les autres de faire, de changer de gardien, de changer de numéro 1. Je pense que Weiler est un petit peu emprunté quand même, mais qu'en ce moment, pour l'instant, il ne peut, peut pas dire Jérémy Frick est numéro 2 derrière Joël Mal. Donc Jérémy Frick va continuer à jouer et il faudrait vraiment que sa prestation elle soit décadente pour qu'il se fasse piquer sa place, je pense.
Nicolas. Ou alors que Joël Mal devienne absolument incroyable et qu'il il donne des arguments absolument irréfutables pour qu'il soit le numéro 1. Et pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas.
Mais quel match il va jouer ? Enfin là aujourd'hui, alors c'est vrai que Jérémy Frick a eu des problèmes de dos, qu'il n'a pas pu jouer le match contre Lausanne parce qu'en effet il avait des problèmes de dos, il avait subi des infiltrations derrière, qu'il a pu jouer sous piqûre notamment à Rome et que c'est pas forcément bon d'enchaîner les piqûres, d'enchaîner les infiltrations pour jouer à chaque match. Donc je pense qu'il y avait un argument qui s'entendait de faire jouer Joël Mal ce jour-là. Une fois que Frick sera vraiment rétabli, et on peut le penser que ce sera le cas après la pause internationale, est-ce que Weiler va encore s'amuser à faire tourner, à donner des bouts de match à Mal, même si Frick peut jouer ? Ça, je ne sais pas.
On arrive à la pause internationale. Pour une fois, Servette aura quelques jours devant lui, déjà pour rien faire, ce qui ne sera pas dommage, et aussi pour travailler. Nicolas, tu penses que c'est le bon moment, quand même, cette petite respiration ? Parce que là, il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes en Europe qui ont enchaîné comme Servette.
Oui, c'est le bon moment parce que Servette est un club qui n'a pas l'habitude d'enchaîner les semaines anglaises comme cela a été le cas presque depuis la fin du mois de juillet. Il y a eu la première pause de septembre, mais autrement, Servette a enchaîné. C'est le bon moment, même si il y a deux victoires récemment en Super League, pour travailler. Parce que Andy, René Weiler se cherche encore, cherche son équipe, cherche peut-être... l'alignement qui correspond le mieux à ses joueurs, mais moi je le comprends parce qu'il a eu très très peu de temps pour vraiment travailler avec l'enchaînement des matchs. C'était je joue, je récupère, je prépare le match suivant, et là ça offrira un peu de temps peut-être pour encore mettre en place certaines choses, certains aspects tactiques aussi, pour que Servette puisse se relancer dans deux semaines pour une nouvelle période chargée.
Mais la question est super intéressante parce que j'entends ce que tu dis. Oui, il faut que Servette travaille, mais où est-ce que tu mets la frontière? Typiquement, avant le match à Lugano, Mattia Crocetorti, l'entraîneur de Lugano, parlait de beaucoup de fatigue cognitive de ses joueurs et du besoin de se reposer. Tu le disais toi-même, Servette a enchaîné, a eu très peu de jours de congé depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de ces calendriers surchargés, des besoins pour les joueurs de souffler. La FIFA Pro, le syndicat des joueurs, milite à fond là-dessus. Alors, tu mets où la frontière? Tu leur donnes combien de jours de congé? À quel moment tu dis non, mais le travail sera plus précieux que la récupération? C'est une vraie question à te poser à ce moment-là.
Oui, voilà, complètement. Il y a deux semaines complètes sans match. Donc, je pense que ce n'est pas un problème de donner 3, même 4 jours pour avoir ensuite une grosse semaine de vrai travail un peu différent de juste la préparation du match suivant.
Valentin, quand même, cette petite escapade italo-tessinoise, je pense que là aussi, elle allait faire du bien à l'aide parce qu'ils ont vu autre chose, ils sont allés entre eux. Le Tessin fait joli, il repart avec 3 points. C'est peut-être ça le plus gros coup de boost pour pouvoir bien enchaîner sur cette pause.
Oui, ça doit sans doute participer à construire un groupe. Mais alors, disons que le groupe de Servette, le fait qu'il est globalement sain, il a toujours été, en tout cas ces dernières années, il a très peu bougé cet été. Il n'y a pas de raison qu'il se délite. C'est ça que je ne me fais pas trop de soucis. C'est normalement un groupe qui vit assez bien. C'est des personnalités qui sont assez, on va dire, qui sont des personnalités qui sont saines. Donc oui, je pense que ça amène un petit peu de solidarité. Et puis d'ailleurs, on l'a vu hier quand même sur le terrain que c'est une équipe qui a aimé se battre ensemble pour aller accrocher ses 3 points, même quand ce n'était pas toujours très, très bien fait, toujours très solide. Mais au moins, on n'a jamais constaté que Servette s'est délité dans le début de saison. Ils ont eu des problèmes souvent tactiques ou physiques, mais c'était pas une question de mental ou bien de groupe qui avait lâché, quoi.
Merci messieurs, on passe directement un petit quart d'heure vaudois. Florian, pour ce quart d'heure vaudois, je viens direct vers toi. En fait, tout ce qu'on a dit depuis le début de saison, ça s'est inversé ce week-end. Parlons déjà du slow et d'Yverdon. Petit retour sur terre pour Yverdon surtout.
Pour Yverdon surtout, on peut apporter la nuance que c'est pas la première fois qu'ils se plantent cette saison. Ils sont allés perdre en coupe à Rapperswil, une équipe de Promotion League. Ils ont très bien réagi ensuite. On se souvient de leur premier match à Zurich qui était vraiment pas top. Ils ont rebondi derrière. Donc, est-ce qu'il faut se faire du souci? On le saura dans 2-3 semaines. Maintenant, j'ai l'impression que ce match traduit quand même un peu l'arrivée dans le nouveau monde d'Yverdon Sport. Il y a cette question notamment autour des deux gardiens qui est un peu hallucinante. Quoi. Je pense qu'il y a un gardien qui a quand même prouvé, mérité sa place à ce niveau-là, qui s'appelle Kevin Martin. Et on lui met un remplaçant devant lui dans la hiérarchie maintenant, qui s'appelle Sébastien Breza, alors que franchement, pour l'instant, les signaux qu'il envoie sont pas terribles.
On dit un gardien de handball, sérieux, il a aucun style, c'est affreux.
Ouais, mais même au-delà du style, je pense que dans sa communication, on a vu beaucoup de problèmes avec ses défenseurs ce week-end. Son jeu au pied contre Saint-Gall, c'était pas bon. Et là, ce qui est assez cocasse, c'est qu'on a peut-être dit à Kevin Martin qu'il n'était pas assez grand pour défendre sur corner, etc., puis que c'était un problème. Et là, Sébastien Breza prend un but sous son bras parce qu'il est passé vite au sol. Alors, c'est un peu compliqué. Maintenant, ce que ça dit d'Yverdon Sport quand même, c'est que Kevin Martin est un gardien dont a hérité la nouvelle direction d'Yverdon Sport. Sébastien Breza est un gardien que cette nouvelle direction a choisi. Qui vaut un peu plus cher, qui appartient à un club un peu plus prestigieux, que potentiellement Yverdon paye un peu plus cher aussi. Et du coup, c'est pas forcément une surprise. Maintenant, Yverdon, c'est plus. Je sais pas si on pouvait parler de club familial avant, je suis pas tout à fait sûr, j'ai un peu de peine avec ce terme. Mais là, vraiment, Yverdon est entré dans le nouveau monde où, vraiment, la réalité économique de marchandage et tout, le club est en plein dedans.
Qui a décidé ce changement de gardien, Florian ?
Alors, à mon avis, ça vient clairement d'en haut. Ça vient clairement d'en haut. J'ai l'impression que Marco Schellibaum n'est pas très, très à l'aise avec cette question. Il évite un peu les réponses, etc. Pour moi, il n'y a absolument aucun doute que ce sont des ordres qui viennent d'en haut.
Nicolas, tu penses vraiment qu'on peut imposer quelque chose à Marco Schellibaum, même si c'est le mode de fonctionnement d'Yverdon, c'est devenu un club comme ça, quoi.
Bien sûr qu'on peut imposer à n'importe quel entraîneur, ou presque, si les dirigeants arrivent et disent « Écoutez, cher coach, vous êtes bien gentil, ou tu es bien gentil, je ne sais pas si les dirigeants d'Yverdon tutoient Marco Schellibaum ou bien… »
Comme son Américain, ils disent « You », ça. D'ailleurs, j'aimerais bien entendre Marco Schellibaum parler en anglais, mais ça, c'est pour la parenthèse.
Ça, c'était une autre discussion. Non, mais comme coach, c'est extrêmement compliqué quand les dirigeants arrivent et disent « Nous, on a engagé ce gardien et c'est lui qu'on veut mettre en valeur, en vitrine aussi. » Et j'ai le sentiment qu'il y a aussi de ça dans ce choix qui, comme Florian l'a dit, vient de plus haut que Marco Schellibaum.
Valentin, c'est les deux néo-promus vaudois hors LS. C'est un petit coup de pied au cul, ça ne fait pas de mal.
Oui, enfin, disons que quand tu enchaînes des bons résultats, on peut entendre une forme peut-être de décompression. C'est deux cas qui sont tellement différents que c'est difficile de les lier. Je pense que Stade s'est quand même confronté à un niveau qui était un petit peu plus élevé, et puis que C'est Camara qui est un très bon joueur et vraiment un très bon défenseur, je pense, qui est très prometteur pour un 2003. C'est quand même très intéressant ce qu'il a montré jusque-là. Mais peut-être qu'il a il est un petit peu rappelé, ramené sur Terre après deux, trois très bonnes semaines, et qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi en Super League, et on peut surtout à Saint-Gall, surtout au Kimoon Park, quand on vient te chercher et puis attendre, enfin te faire provoquer l'erreur. Donc voilà, Stade Lausanne s'est confronté à un adversaire qui était compliqué, dans un contexte qui était très compliqué, où là, l'écart de niveau s'est quand même fait sentir. Peut-être qu'il se fera moins sentir sur un autre match, un match retour, enfin, quand il compte balle, et contre un balle qui est un petit peu désuni, c'est beaucoup plus simple à mettre en difficulté. Yverdon, ouais, je pense qu'il y a en effet un contexte global qui est très différent, et qui, mine de rien, va quand même annoncer un petit peu d'instabilité à un moment ou à un autre. La question du gardien, pour moi, c'est un premier symptôme de ce contexte-là. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, chez Libaume, on va lui dire merci, merci beaucoup, monsieur, pour tout ce que vous avez fait. Vous avez permis de lancer l'équipe. Mais maintenant, on veut un entraîneur qui est là pour valoriser, un entraîneur qui doit valoriser tout ce qu'on a fait, tous les joueurs qu'on a fait. Vous avez fait du très bon travail, monsieur Philibaud, mais maintenant, on va aller chercher un autre entraîneur parce qu'on veut un autre profil. C'est, disons que quand tu fais un recrutement comme ça, quand tu as un projet comme celui-ci, où on parle en plus de plus en plus de multipropriété, de copropriété avec des autres clubs qui pourraient être achetés par le propriétaire d'Yverdon, ou en tout cas des participations dans d'autres clubs. Il est clair que le projet n'est pas simplement de. Enfin, le projet était voire un petit peu plus loin que les simples résultats à court terme en Super League. Donc voilà, va falloir analyser la saison d'Yverdon dans ce contexte-là et suivre ce qui va s'y passer.
On enchaîne direct sur l'ENS, qui a enfin gagné un match à domicile pour la première fois depuis mai, je crois. C'était contre Lille, avec forcément des buts de Brown et Baldé, ce qui est assez savoureux. Nicolas, hier, ce n'était pas le meilleur match du LS, loin de là. Mais pour une fois, il y a eu réaction et il y a eu un peu de chance. Donc, c'est intéressant d'un côté et ça montre que quand même le LS peut régater et a aussi fait un peu tourner. Donc, peut-être que Ludovic Magnat a aussi un petit peu évolué.
Ludovic Magnat dit c'est bien beau le beau jeu, mais à un moment, ce qui compte, et c'est ce que font les clubs alémaniques, ils font des points. Hein. C'est très latin de vouloir le beau jeu et les points. Et là, effectivement, Lausanne a pu un peu aussi profiter des circonstances avec la sortie sur blessure du pauvre Beka, qui en aura certainement pour de longs mois.
Mais
Ça a quand même
je
déstabilisé la défense centrale lucernoise. Et après, faut être quand même opportuniste pour profiter de cela, du manque d'expérience de Willimann qui concède de penalty. Et oui, en termes de résultats, ça va faire un bien fou, mais extrêmement important, ces 3 points pour Lausanne, parce que 5 points, 10 matchs, désormais, ça faisait quand même un peu peu.
Florian, il y avait énormément de soulagement hier après le match, et aussi pas mal de bières, je dois dire, à la fin de match à la Tuilière. Là aussi, le LS et Ludo se sont achetés du temps parce que ça commençait à bouillir, hein. Mais on a vu des choses qu'on n'a peut-être pas vues depuis le début de saison et surtout au milieu, un peu plus d'engagement, un peu plus d'intensité. Ça fait quand même une grosse différence à ce niveau-là.
Ouais, je peux tout à fait entendre ça. Je pense que le football s'est rendu au LS ce qu'il lui devait, parce que depuis le début de la saison, voilà, Lausanne méritait quand même de gagner quelques matchs au regard de ce qu'il présente. Maintenant, ouais, cette partie me fait un peu mourir de rire pour une chose, puis c'est un peu symptomatique du football, mais il y a cette sacralisation autour du coach qui quand même me fait un peu rire, parce que jusqu'à la semaine dernière, encore 2 jours, on parlait du discours magnien qui était voilà qui comprenait pas machin, on commençait à se montrer agacé, voilà, il dit tout le temps les mêmes choses, etc. Et puis voilà que il gueule à la pause, il envoie une tôle à ses joueurs. Lausanne gagne et tout de suite c'est grâce à ça. Et j'ai vraiment de la peine à entendre ce discours-là. Je dis le coach n'est pas responsable de tout. On sacralise tous ses faits et gestes. Quand le club gagne, c'est que le coach a fait quelque chose de formidable. Quand il perd, c'est que le coach a fait quelque chose de terrible. À un moment, je crois qu'il faut se montrer un peu plus nuancé par rapport à ça.
Valentin, c'est un peu la théorie d'Aimé Jacquet, parce que fondamentalement sur le terrain, le LS joue pareil. Donc l'important, ce n'est pas la tactique, c'est l'animation.
Je ne suis pas sûr que le LS joue vraiment pareil que ce qu'il avait fait sur tout le début de saison. Il joue pareil depuis 3-4 matchs, depuis le match contre Zurich, le 0-0 à la Tuilière. C'est à peu près depuis ce moment-là qu'on a vu une forme de shift dans la façon dont Lausanne a joué, à savoir un bloc un peu plus bas, avec des transitions qui sont bien jouées. Mine de rien, hier, en première mi-temps, Lucerne méritait sans doute d'être devant. Mais le plan que Lausanne suivait avait quelque chose de cohérent. Ce n'est pas en effet pas le truc le plus emballant qui soit, mais peut-être que ça correspond mieux aux qualités de ce groupe, au déficit entre guillemets de qualité de ce groupe aussi. Peut-être qu'en effet, Lausanne n'a pas les qualités de faire beaucoup plus que ça, mais même si je pense qu'on peut masquer des qualités en faisant différemment aussi. Enfin, masquer un déficit de qualité en faisant différemment aussi. Je pense que Manier est quand même sécurisé quand il fait ça. Et ensuite, c'est au joueur d'appliquer. Et alors oui, ça a bien tourné hier, mais ça tournera pas bien à tous les matchs non plus, je pense. Mais voilà, c'est quand même important. C'est important pour continuer d'avancer, pour avancer de manière un petit peu plus sereine. Encore une fois, de prendre des points à un moment ou à un autre. Et Lucerne est souvent un bon adversaire pour prendre des points.
C'est intéressant, Nicolas, ce phénomène de paratonnerre que fait Ludo Magnin au LS. Pendant cela, on ne parle pas du latéral droit qui est nul. On pointe qu'Alicéné a pas mal de qualités, mais il a pas mal de défauts aussi. Et ils sont vraiment très criants sur Saint-Étienne et dans un schéma comme ça. Ludovic Magnin fait un parfait paratonnerre. Heureusement qu'il est là finalement, parce que sinon, on ne saurait pas à qui parler au LS.
Mais lui, je crois qu'il est prêt à ça. Et quand on l'a engagé, c'était aussi pour ça, cette personnalité vaudoise, après tout ce qui s'était passé la saison d'avant avec Cissé, Casanova et compagnie. Et lui savait où il mettait les pieds et il était prêt à ça. Et oui, c'est une personnalité qui aime bien s'exprimer, qui a des punchlines qui plaisent et qui attirent passablement de choses à lui. Et est-ce qu'il le fait sciemment ou pas? Ça, je suis pas capable de le dire, mais il y a d'autres personnalités dans cette équipe. Noé Ducène, depuis son arrivée, a quand même montré un certain leadership. Il y a effectivement, avec ça, on a un peu moins parlé des latéraux et des questions qui les entourent quant à leur capacité d'être au niveau de la Super League. Ça, c'était une autre discussion. Il y a la problématique du gardien qui a aussi été thématisée pendant un certain nombre de semaines. Et voilà, ça évolue aussi de ce point de vue-là. Et peut-être qu'un jour, on arrivera au point où on parlera effectivement de l'apport des latéraux dans cette équipe.
Je suis curieux d'une chose. Tu étais au stade, Robin. Comment a réagi le public peut-être en deux temps, déjà à la mi-temps, quand c'était pas terrible et Lausanne perdait, quelle a été la réaction quand ça s'est mis à bien tourner?
Bon, c'est comme d'habitude à Lausanne, hein, tu perds fatalisme, on a l'habitude, voilà. Et puis après, vraiment un soulagement et enfin un peu de joie dans ce stade, parce que c'est quand même pas facile entre le caractère du Vaudois moyen. Le peu de public finalement qui vient, un club, c'était les banderoles des ultras. Hein, tu sais pas ce qu'il veut faire, tu sais pas ce qu'on veut faire comme projet dans ce coin. Donc il y avait de l'abattement et quand même à la fin la joie parce que le LS a gagné un match et puis c'est pas souvent. Et puis ça fait du bien à tout le monde et surtout à certaines personnes dans les bureaux aussi qui en chient pas mal, qui prennent beaucoup sur les épaules, qui prennent beaucoup de remarques par rapport à ça. Et ouais, vraiment les trois points dans ce cas-là, c'est aussi un peu d'air hein, pour deux semaines, il n'y a pas à tortiller. Mais je voudrais juste vous parler d'un truc. Ben, on sait que Ludo prend beaucoup de place et tout. On parle beaucoup des recrues moyennes ou pas. Mais Florian, par exemple, moi, j'ai envie de commencer avec toi. On parle très peu, et lui d'ailleurs parle très peu, c'est d'Alvin Sanchez. Je trouve qu'il a pris du poids, je trouve qu'il prend de la place. Je trouve qu'il s'est devenu un vrai joueur de Super League et peut-être le meilleur Lausannois avec Duchesne et Letizia jusqu'ici. Comment toi, tu vois cette évolution d'Alvin Sanchez, un des derniers purs produits de la formation du LS?
Ouais, j'ai de la peine à arrêter un avis sur Alvin parce que ça vient aussi de ce qu'il produit sur le terrain. J'ai l'impression que c'est absolument pas linéaire, quoi. Ça retombe, ça revient, ça. Voilà. Puis il y a aussi ce comportement. Alors, aucun, enfin, c'est pas une critique en disant ça quand il va, comment dire, disons, s'amuser avec les supporters de Servette après son but. Voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y a aussi cette non-célébration après le but à Lugano qui est un peu étrange. Ouais, j'arrive pas à mettre des mots sur Alvin Sanchez. Est-ce qu'il est déçu d'être resté au LS parce que IB avait parlé de le prendre un moment cet été? Je sais pas. Maintenant, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, c'est un des derniers bijoux du LS, si on peut le dire c'est comme ça. Et ce côté-là, je pense qu'elle a une sorte d'invincibilité au LS aussi, où voilà, le club doit le mettre en valeur. C'est beaucoup trop important pour lui.
Valentin, est-ce que c'est pas un joueur qui est plus taillé Super League que d'aller faire face à des bûcherons de Challenge League?
Je sais pas, je pense que c'est surtout un joueur qui a un développement constant et un joueur comme Alvin Sanchez, je ne crois pas qu'aujourd'hui le Lausanne Sport puisse s'en passer d'une manière ou d'une autre.
Donc,
Le Lausanne Sport,
créativité, c'est un peu un des seuls, quoi.
c'est le seul qui a énormément de qualité et peut-être le principal problème de Lausanne actuellement, et ça dit aussi beaucoup de la manière dont l'effectif a été construit, c'est qu'il est très dépendant en fait des inspirations de Sanchez. Mais non, enfin, un joueur comme ça, pour moi, pas forcément le protéger, mais en tout cas le mettre dans les meilleures conditions possibles et accompagner son développement parce que oui, ça va devenir un très bon joueur de Super League si tout se passe normalement, en théorie, même si enfin, on sait qu'à 20 ans, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent dans une carrière et à 20 ans, on est loin d'avoir un produit fini. Mais non, moi, enfin, Sanchez, je le trouve très discipliné aussi, son ballon. Quand même dans le 4-3 qui se déforme en 4-4-2 sans ballon, il est quand même important pour faire le premier pressing, amener cette première ligne avec l'attaquant. Et je pense qu'il progresse beaucoup et que c'est quand même je sais pas si c'est un joyau, mais en tout cas c'est un petit bout de diamant quand même que le Zana là.
Nicolas, c'est pas un joueur que tu as eu son tête 34 fois à l'interview. Hein.
Bon, je suis pas toutes les semaines à Lausanne non plus, mais effectivement, j'ai pas le souvenir de l'avoir eu à mon micro, que ce soit la saison dernière ou cette saison. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à Sanchez et au discours qu'on est en train de tenir là, premièrement, que c'est un diamant à polir, oui. Et on parle de lui alors que à Lausanne, on nous a vanté le jeu sur les côtés. Et là, on parle beaucoup d'un élément axial qui est indispensable. Donc, ce Lausanne, finalement, ne dépend pas de ses ailiers et peut-être moins que ce qui était même prévu en début de saison dans le plan de Ludovic Magnin.
Voilà, parfait. On a fait le tour de la question vaudoise avec un peu de rab. On passe tout de suite à l'équipe de Suisse. Bon, Valentin, je viens tout de suite vers toi parce qu'il y a quand même des trucs qui nous échappent avec cet ASF des fois. En général, à part certains entraîneurs un peu qui aiment bien les faire du golf. Tous les sélectionneurs du monde se plaignent, on a peu de temps pour bosser avec les internationaux, c'est pas facile de les réunir, machin et tout. Et voilà que l'équipe de Suisse, avec l'annulation du match en Israël, donne 2 jours de vacances à tout le monde. C'est assez hallucinant.
C'est totalement lunaire. Moi, j'attends des explications. Donc, pour rien cacher, on enregistre à 1h30. Il y a l'ASF qui donne une conférence de presse à 14h, à laquelle on va assister. Puis, on mettra ça de façon sur tous les sites, ce qui a pu se dire. Moi, sans explication au préalable, je ne comprends pas le projet. En effet, tu as du temps. Je rappelle qu'il y a un mois, en équipe de Suisse, on a eu un capitaine qui est sorti qui a dit que les entraînements, ce n'était pas bon. L'équipe de Suisse était mal entraînée. L'équipe de Suisse a de nouveau l'opportunité de s'entraîner correctement, de développer quelque chose qui peut servir, qui pourra servir alors pour cette qualif-là, mais aussi pour toute la suite, pour l'Euro qui arrivera en fin de saison. Parce que mine de rien, on est en octobre et normalement, avant l'Euro, il n'y a plus que 2 rassemblements, on le voit en mars. Comment tu peux te permettre de négliger des jours d'entraînement, même si tu ne fais pas du travail très fourni, très intense, etc.? tu peux préparer des trucs en 3-4 jours qui peuvent te servir pour une pour la suite. Alors qu'en 2-3 jours, quand il faut remettre au niveau tous les joueurs, etc., c'est quand même un peu plus complexe. Là, on va avoir mercredi soir un premier entraînement qui va se faire en public, avec, j'imagine, pendant 3 quarts d'heure, des gamins qui vont courir sur la pelouse, d'abord prendre faire des autographes et ensuite pour jouer avec les internationaux. Et ensuite, jeudi, vendredi, samedi, et samedi, on sera déjà en veille de match, le match contre la Biélorussie, qui en effet ne fait pas très peur. Mais tu travailles, tu ne prépares pas le match contre la Biélorussie, là, tu travailles beaucoup plus que ça. Et je comprends pas comment on peut arriver à de pareilles situations.
Nicolas, même avant le Mondial Qatar, il n'y a pas eu autant de temps à disposition pour bosser. C'est comme disait Valentin, c'est lunaire de ne pas en profiter.
Oui, surtout que tout ne roule pas comme sur des roulettes actuellement pour l'équipe de Suisse. Donc, ouais, je suis très, très étonné. J'ai aussi essayé de tourner la chose dans tous les sens. Est-ce que c'est un souci logistique? Est-ce que je sais pas? J'ai pas trouvé d'explication avant d'entendre celle de l'ASF qui nous sera donnée d'ici. Quand vous écouterez ce qu'on est en train de dire, vous aurez déjà les explications. Mais nous, on les a pas. Et puis, ouais, hallucinant. Je sais pas. Je sais pas quel terme est le bon terme à utiliser par rapport à.
Yakinien.
Peut-être. Alors, est-ce que ça vient de Yakin, ça vient de Tammy, ça vient de chez les joueurs, je sais pas. Ça, enfin, peut-être qu'on va nous le dire, peut-être pas. Enfin, il y aura mille raisons, mille débats ensuite à amener. Mais qu'on se rende compte quand même de la situation. Il faut savoir que quand il y a un rassemblement, que les joueurs se réunissent le lundi, à part les joueurs qui ont joué le dimanche soir, normalement tous les joueurs arrivent en Suisse ou proche de la Suisse le dimanche soir, les dimanches fin de journée, ou plus tard le lundi matin. Alors, j'imagine qu'ils ont été prévenus avant nous, parce que nous on a été prévenus que ce matin. Que l'équipe de Suisse avait reporté ces deux jours, mais ça veut dire qu'il y a 23 joueurs internationaux qui, pendant deux jours, sont probablement en Suisse et vont rester à la maison, alors qu'ils pourraient être ou rester avec leur famille ou je ne sais pas quoi. Alors que tu peux être en équipe, alors peut-être que c'est chiant à un stade d'équipe nationale, peut-être que tu t'embêtes, peut-être que tu ne sais pas comment faire passer le temps, mais quand même, on peut tourner autour du pot, mais enfin, ouais, il n'y a pas une bonne raison, pour moi, il n'y a pas de bonne raison.
Non, mais j'entends l'argument de donner, pourquoi pas, un peu de temps pour passer en famille, parce que la plupart évoluent à l'étranger, mais pas deux jours. Convoque-les demain à midi. Ils passent le lundi, ils profitent de quelques heures supplémentaires en famille, mais ramène-les avant mercredi pour s'entraîner, pour préparer certaines choses, pour mettre en place, effectivement, peut-être pas pour le match contre la Biélorussie, mais pour l'Euro de l'été prochain, déjà. S'il a suicidé, normalement, ça devrait être le cas. Mais...
Bon, Florian, on a fait le tour un peu de la question, mais on en reparlera pas mal la semaine prochaine avant le match de la Biélorussie, justement, pour essayer de se qualifier enfin à cet Euro, puis surtout de gagner un match jusqu'à la 97e. Je voudrais juste un mot de ta part, Florian. Il y a l'équipe de Suisse M21 qui est à Lausanne ces prochains jours. C'est une nouvelle génération et je trouve que ça fait bon. Il y a eu ce changement d'une année avec le Covid, mais ça va être un peu plus compliqué pour la nouvelle génération de régater au niveau international, je pense.
Oui, sans doute. Après, on dit aussi ça parce que bon, c'est une nouvelle génération, ce qui fait qu'elle arrive, elle est encore jeune par rapport à sa catégorie d'âge et ne demande qu'à s'affirmer. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de joueurs dans cette équipe que je me réjouis de voir sous le maillot suisse, je me réjouis de voir ce que ça donne. Et ouais, parfois on peut presque penser qu'ils sont un peu brimés dans leur club. J'ai pas forcément de nom à fournir comme ça, mais ça va être intéressant. Je me réjouis de voir des Alvin Sanchez sous ce maillot, je me réjouis de voir des Franck Surdé sous ce maillot et de voir ce que ça donne. Ça va être intéressant.
Il faut quand même relativiser. Hein. Au début de chaque début de sélection moins de 21, il y a toujours des joueurs qu'on se dit, mais on les connaît pas trop, ils jouent pas beaucoup en club, etc. Et puis on se rend compte qu'au fil des mois qui est avançant, que ces joueurs-là prennent du volume, prennent de l'importance, et dans leur club, qui sont en Super League, peut-être certains aussi, ça va être à l'étranger. Et mine de rien, il y a quand même une petite base de génération 2002 entre Jachari, Rieder, Omer Agic, qui est quand même intéressante et quand même déjà pas mal d'expérience, à la fois au niveau suisse, mais presque au niveau international aussi, quand on voit ce que Rieder et Omer Agic commencent à faire.
Bon, messieurs, je vous ai donné des devoirs. C'est me trouver votre meilleur Suisse, votre MVP Suisse à l'étranger en ce début de saison. Je commence avec toi, Nicolas. Pour toi, c'est qui est le Suisse le plus brillant depuis quelques mois?
J'ai essayé de tourner les choses dans tous les sens pour ne pas dire gagner de Chaka.
C'est dur, hein?
Et je n'y suis pas arrivé. Je n'y suis pas arrivé. Je suis désolé. Le but, c'était peut-être qu'on ait des noms différents. Florian et Valentin vont peut-être m'aider, mais j'ai la chance de parler en premier. Donc, je vais donner le nom qui, pour moi, s'impose. J'ai pensé à Okafor qui arrive à Milan et qui réussit des débuts plutôt intéressants, mais à Tseguiyer qui s'impose dans la défense centrale de Wolfsburg, dans un club où il débarque, il découvre la Bundesliga. Mais on peut dire la même chose d'Omeragic à Montpellier, mais c'est rien. Avec tout le respect qu'on doit aux performances de ces trois joueurs par rapport à ce qu'est en train de faire Xhaka depuis son arrivée à Leverkusen. Cette équipe est leader de Bundesliga et Xhaka est un élément déjà indispensable.
Valentin, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un patron,
Oui, de toute façon, il joue tous les matchs et tous les matchs dans leur entièreté quasiment. C'est, je pense, un des éléments les plus importants pour Xabi Alonso actuellement. Évidemment que enfin, c'est de façon c'est inévitable de mentionner Xhaka et je pense qu'il est dans un confort en plus en ce moment qui comme il a pu le dire en interview la semaine passée que il a beaucoup moins de pression, il a un confort pour travailler pour mener son projet personnel et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il fasse pas une extraordinaire saison encore une de plus après celle de l'année passée. En plus, cette fois dans un rôle qui est un petit peu différent par rapport à ce qu'il a, enfin, qui lui correspond plus que celui qu'il occupait l'année passée à Arsenal. Après, on peut citer, il y a peut-être un ou deux autres noms qui peuvent quand même ressortir. Mine de rien, Sommer, je pense qu'on peut le mettre dedans. Je pense qu'il a quand même bien entamé sa saison dans un très bon Inter, même s'ils ont fait 2-2 ce week-end contre Bologne. Mais il est quand même important, il correspond assez bien au jeu de l'Inter et il prouve qu'il peut être encore fiable au niveau international. Ce pourquoi je pouvais avoir quand même certains doutes, savoir s'il pouvait être performant. Mais là, il commence très bien la saison. Après, je peux en citer d'autres. Hein. Zakaria est bien. Mine de rien, il y a deux, trois joueurs qui m'intéressent. C'est la colonie suisse qui a à Bologne. Ebischer, Fröler, Endoy, qui sont titulaires quasiment tout le temps, les trois ensemble avec Thiago Motta. Et puis eux, ils vont faire une bonne saison. Parce que Bologne est une équipe intéressante de Serie A. Donc voilà, enfin, c'est les petits noms qui peuvent ressortir comme ça, mais évidemment qu'il n'y a personne qui surpasse Xhaka.
Ouais, on voit à Monaco Philippe Keun hein, qui a fait un bon
Aussi.
match aussi ce week-end. On peut parler aussi de Manuel Akanji
Oui.
qui a un poste vraiment et une utilisation vraiment assez très intéressante à Manchester City. Florian Vanet, c'est lequel ton préféré, toi, dans le lot?
Non, mais moi, les joueurs trop brillants, ça m'intéresse moins, quoi. Moi, j'avais profité de ta question parce que je trouvais que c'était une formidable occasion pour parler de Maxime Dominguez qui brille en première division portugaise
Juste.
avec Gil Vicente, qui a encore marqué samedi d'ailleurs. Donc, tu présentes des très jolies stats, 3 buts, 3 assists. C'est chouette de voir que ça fonctionne pour lui en Europe quand on sait que la situation dans laquelle il était il y a encore 2 ans avec Neuchâtel Xamax, où c'était devenu un joueur finalement très quelconque, alors qu'on se souvient de ses qualités au-dessus du lot quand il était au LS, etc. C'est chouette de voir qu'à son âge, 27 ans, je crois, il a encore l'occasion de rebondir dans un très bon championnat, dans une équipe de milieu de classement. Non, bonne nouvelle de ce côté-là.
Pour
Et
avoir vu
surtout.
quelques bouts de match de Gilsen, en effet, ça lui correspond très très bien. C'est un football qui lui correspond bien. Et il a la chance d'avoir un coach qui croit totalement en lui. Et donc il va faire une bonne saison. Et en plus, il marque du pied droit en dehors de la surface. Donc c'est quand même à relever.
Nicolas, tu avais déjà vu, à part ça, ce qui s'est passé cet été, où il signe dans un club en Bosman pour être transféré quelques jours après ailleurs. Ça, c'est du jamais vu dans le mercato. Incroyable.
Ouais, effectivement. Bah, tant mieux pour lui, mais c'est vrai que en général, quand on s'engage dans un club, c'est pour plus que quelques semaines. Alors oui, il y a des fois des contrats qui sont signés parce que c'est prêt avec option d'achat, l'option est levée, puis après il y a un autre club qui arrive et le joueur fait quelques jours dans un club. Mais là, la situation était complètement di différente pour Maxime Dominguez et Ouais, joli rebond parce qu'il est parti dans un club, enfin d'un club champion national, joue les qualifications européennes. On peut se dire, mais ouais, il a un joli projet devant lui et pour partir dans une équipe, le grand public, Gilles Vicente, ça dira rien.
À... Bon, je te mets au défi quand même de dire le nom de ton club polonais.
Alors, Krakow, Czertos, Kaya,
voilà.
Peut-être que Robin, on peut me donner un coup de main.
Impossible.
Par contre, vous connaissez le règlement au Portugal parce que j'ai vu qu'il avait pris 4 avertissements déjà et il a pu jouer ce week-end. Donc,
oui, c'est différent. Chaque championnat a son règlement différent. Mais juste pour vous mettre sur la piste là, pour le double transfert cet été, regardez qui était son agent hier encore, jusqu'à encore 2 semaines.
Un.
Voilà. Aurais-tu fait un article sur le sujet il n'y a pas longtemps ?
Par exemple.
D'accord, c'est bon. Bon, je suis sûr que vous ne devinerez jamais mon MVP suisse à l'étranger de ce début de saison. Même la fin de saison là-bas.
Marina et Sélassier.
Ah, c'est pas loin. Non, c'est clairement Roman Burki qui n'est pas loin d'être MVP de MLS d'ailleurs. Il a passé de longs, très longs mois sans jouer parce que simplement son club n'existait pas encore. Et puis là, avec Saint Louis City, directement top of the league, mieux que Los Angeles FC et compagnie, des matchs absolument incroyables. Roman Burki, Valentin, ça a toujours été un gardien un peu différent. On va pas dire juste qu'il n'est pas encore Grégor Kobel au niveau du cerveau, mais pas loin.
Oh, ça se compare, hein, parce que la phase qu'il a fait en équipe de Suisse à l'époque, on peut se dire que Kobel, si Yann Sommer devait continuer après l'Euro 2024 en équipe de Suisse, Kobel peut faire la même, je pense. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même très haute estime de lui-même, comme Kobel, et il a un petit peu payé au niveau international aussi, même si ça a été un très bon gardien, notamment à Dortmund. Hein.
Et du coup, il arrive au MLS et ouais, il vole, quoi, simplement. C'était un physique en équipe de Suisse, j'avais jamais vu. C'est une armoire, c'est une baie, c'est assez incroyable. Nicolas, les joueurs suisses en MLS, on suit parce qu'il y a Shaqiri, mais sinon, c'est quand même. J'ai l'impression que c'est un petit enterrement médiatique là-bas, alors pourtant, c'est un championnat qui devient de très haut niveau.
C'est un championnat qui grandit et oui. C'est pas comparable avec le top 5 européen, mais c'est un championnat qui se développe. Et s'il fallait comparer des équipes, confrontation des équipes de MLS et de championnats qui viennent assez rapidement derrière le top 5 européen, je sais pas qui gagnerait à tous les coups. Il y aurait match.
Florian, on a parlé pas mal de gardiens aujourd'hui. Et quel souvenir tu gardais de Roman Burki surtout? Et puis, est-ce que simplement, toi, tu le suis un peu ou c'est vraiment l'enterrement de première classe à Saint-Louis?
Non, je ne le suis plus du tout. Franchement, il a complètement disparu de ma mémoire. Quoi. S'il faut parler d'un gardien, là, tout de suite, j'ai envie de prononcer le nom de Moridio après ce qui s'est passé hier avec le jet de pétard. Entre Montpellier et Clermont. Alors, il paraît qu'il va bien, il a passé des examens complémentaires, tout va bien de son côté. Ça pourrait remettre en cause d'ailleurs sa sélection pour le camp du Sénégal en ce moment. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est vraiment moche.